Donc bonjour à tous et à toutes. Dans un instant, je vais laisser la parole à Saul Pandelakis pour une conférence, comme indiqué sur l'écran, se souvenir du dessin pour ce festival figuré à l'Espace Bonnefoy. Cette conférence va être rediffusée en direct sur la web radio Onde Courte et vous pourrez la retrouver également en podcast dans quelques mois si le contenu évidemment passionnant, si vous avez envie de le diffuser à vos amis, à vos proches. Voilà, et ce sera suivi d'une seconde conférence d'ici trois quarts d'heure, je crois. Je te laisse la parole. Évidemment, on pourra échanger après.
Bonjour, et merci pour cette présentation. Je ne sais pas du tout si je vais parler 45 minutes. Je suis universitaire, donc je suis en théorie habituée des confs. Mais voilà, ce contexte-là, il est un peu différent et à vrai dire, il est assez chouette parce que je vais parler de dessin alors même qu'on est dans une expo où il se passe plein de choses autour du graphisme et du dessin. Et ça me change un peu de mon cadre habituel. Voilà. Je vais mettre un petit chrono quand même parce que je suis célèbre pour déborder. Du coup, voilà, je suis enseignant-chercheur à l'université. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'enseigne. Ça fait 5 ans que je suis à la fac du Mirail et donc je suis enseignant et chercheur en design, donc c'est proche évidemment du dessin. Et donc mon travail, c'est une partie d'enseignement, des cours, parfois des cours pratiques, de moins en moins à vrai dire, mais ça l'a été. Et comme l'indique le titre d'enseignant-chercheur, je fais aussi de la recherche. Et quand on est enseignant-chercheur en design, on a donc déjà ces deux casquettes d'enseignant et chercheur. Et on en a en théorie une troisième qui est celle de praticien ou praticienne du design. Mais en fait, je vais commencer cette conférence en expliquant que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Puisqu'en fait, quand on est enseignant-chercheur à la fac, on est enseignant-chercheur-administrateur et pas dans cet ordre. Voilà. Donc on passe beaucoup de temps sur des questions administratives. Moi, j'ai fait la bêtise de prendre beaucoup trop de charges administratives depuis 2 ans. Donc c'est à la fois passionnant, fatigant et ça m'a beaucoup, beaucoup éloigné de ma pratique. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un peu le sujet de cette conf aujourd'hui, d'où le titre « Se souvenir du dessin ». L'idée, c'est d'aller chercher ce dessin là où je l'ai un peu planqué parce que très souvent, je me dis que je l'ai oublié. Et c'est quand même un comble quand j'enseigne le design, qui est ma discipline d'origine, de cœur. C'est celle que j'enseigne à mes étudiantes et étudiants. J'arrête pas de le répéter que le dessin est important et moi-même, je l'ai oublié. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui. Je vais en faire le thème de la conf. Et je vais voir si, du coup, je me rappelle du dessin à la fin. Et donc, cette petite slide nous rappelle que le dessin prend de la place. Voilà, il faut le temps de dessiner. Et donc, quand on passe son temps à administrer, enseigner, chercher, et ben le dessin, il s'éclipse. Voilà. Bon, évidemment, j'ai dit tout ce que j'avais à dire avant de montrer les slides, mais voilà, c'est classique. Donc, je rappelle un petit peu que je me coupe en quatre. Les cours, les tâches administratives, la recherche et la pratique qui prend trop peu de place. Alors, je vais quand même parler un tout petit peu de ce sur quoi je cherche, parce que j'ai dit que j'étais chercheur. Et en plus, dans ma présentation, vous allez voir que je vais parler de projets de recherche. Donc c'est pas mal de faire un petit panorama maintenant. Comme beaucoup, comme quasiment d'ailleurs la totalité des enseignants-chercheurs, je suis titulaire d'une thèse de doctorat, mais j'ai pas fait ma thèse en design, je l'ai faite en études cinématographiques. Et donc quand je suis revenue à la recherche, quand j'ai obtenu mon poste à la fac, une de mes priorités, ça a été de penser la convergence entre ma discipline de cœur, donc le design, et mon autre discipline de thésard, qui était le cinéma. Et donc, ça a donné naissance au projet Ciné Design, dont je reparlerai. C'est un projet qui, à ce jour, a permis de faire ou d'organiser 2 événements scientifiques, donc des conférences universitaires, mais aussi des séances de cinéma. Il y a un livre dont on parlera. Voilà. Un autre projet qui me tient énormément à cœur et qui m'occupe pas mal et qui est un projet à la fois de recherche et de création, c'est le projet Dataro. C'est un projet avec la dramaturge Camille Coury. C'est à la fois un projet de théâtre, mais aussi de performance, de design graphique. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un projet qui tourne autour du tarot. Et j'ai donc amené le jeu de tarot, dont je serai amenée à parler également dans cette conf. Sinon, mon gros projet de recherche, celui qui me prend le plus de temps, c'est la question des cuisines queer. Alors, je l'ai intitulé ici en anglais les queer kitchens. Je travaille sur, on va dire, je vais vraiment le dire très rapidement, la question de l'habitat en relation avec la théorie queer et plus précisément la place des cuisines dans l'histoire féministe et queer. Et j'essaye en fait de défendre dans ce projet-là l'idée que la cuisine est un lieu pour la révolution, que c'est un lieu révolutionnaire en soi et non pas un lieu uniquement d'oppression et une espèce de placard à boniche, pour le dire rapidement. Que, voilà, j'essaie d'expliquer tout ça. Et ce projet-là, il est en lien direct avec ma pratique pédagogique, puisque je fais cours. Alors en ce moment, tous les mardis à 8h15, ça pique un peu. Donc c'est à l'université, c'est le cours Queer Design, ça fait 4 ans que ça dure. Et là aussi, pour le dire de manière très ramassée, c'est une manière de connecter la recherche en design et ce qu'on appelle la théorie queer. Mais j'expliquerai peut-être un peu plus tout à l'heure ce qui se cache derrière tout ça. Voilà. Ah oui, si, dernier petit projet, les sexbots. Donc ça, c'est encore ce que les Anglais appellent un pet project. Voilà, c'est un petit projet sur le côté, mais il y en a beaucoup. Sur la possibilité de faire l'amour avec des robots, c'est une question qui m'occupe depuis 4 ans maintenant. Donc le chercheur Anthony Mazur et moi-même, et encore récemment, on s'est produit, entre guillemets, enfin, on a produit un certain nombre de confs et d'articles autour de la question. Mais du coup, voilà, ça c'était un peu un panorama de tout ce sur quoi je cherche quand j'ai le temps. Je pense que vous avez compris que c'est pas évident. Mais afin d'expliquer un petit peu quelle est ma relation au dessin et quelle est ma pratique, on va faire un saut dans le passé. Et ça, c'était vraiment un moment assez chouette pour moi quand j'ai préparé cette conférence. C'est que je me suis dit, bah tiens, j'ai oublié le dessin depuis que je suis arrivée en poste à Toulouse. Donc c'était en 2015. Et je me dis, mais tiens, mais qu'est-ce que je faisais en 2015 et quelle était alors la place du dessin dans cette année-là? Sachant qu'en 2015, avant d'arriver à Toulouse, j'étais en poste dans un BTS de design graphique à Rouen. Donc je n'étais pas du tout dans la région. Et à Rouen, bon, bah, j'étais très occupée par mes cours. La recherche, je n'avais pas le temps. Mais par contre, je faisais beaucoup d'illustrations et de papeterie. Et ça, c'est un truc que finalement, peu de gens savent peut-être sur moi. Mais c'est que pendant 3-4 ans, j'ai vendu mes créations dans cette boutique, qui était une boutique associative qui s'appelle Le Beau Local, qui existe encore et qui d'ailleurs... apparemment fait de plus en plus de choses très chouettes. Donc c'était vraiment un ensemble de gens, d'artisans, de designers, d'illustrateurs qui étaient réunis dans la boutique. Et c'était une relation très particulière au travail que j'ai plus depuis, qui était vraiment, bah, toutes les semaines, je produisais des choses pour pouvoir les vendre dans la boutique. Il y avait aussi un enjeu de vente. Il fallait faire tourner le lieu, il fallait payer le loyer. Donc voilà, c'était une relation à la création assez spécifique. Et puis en 2015, juste avant de quitter Rouen, j'avais eu l'ambition de faire un projet d'illustration sur plus grand format parce que j'étais un peu frustrée de faire que des cartes postales, des cartes de visite et tout ça. Et au bout d'un moment, enfin, des petits autocollants, ça commençait je commençais à être un peu à l'étroit là-dedans. Et du coup, je me suis engagée sur ce projet qui venait en fait d'une émotion très simple. C'était un soir en regardant la télé, une vieille version de Robin des Bois et j'avais eu cette image de Robin faisant la cour à Marianne. J'avais trouvé ça vraiment super. Et du coup, j'avais eu envie d'un seul coup de faire deux images ou une image monumentale autour de Robin des Bois. Et du coup, c'est devenu l'exposition Une vie de Robin, qui donc est une pièce en deux parties. Je ne sais pas si on peut parler de diptyque. Et vraiment, l'ambition pour ce projet-là, c'était de faire de très grosses pièces. Alors, je ne me rappelle plus exactement d'ailleurs des dimensions. J'étais allée voir mon imprimeur de l'époque avec qui je travaillais et je lui avais dit il travaillait avec une traceuse. Donc forcément, il était limité au niveau du format en hauteur. Et je lui avais dit quel est le lait le plus long que tu puisses faire. Il m'avait dit on peut aller, enfin en tout cas, au plus large, on peut aller à 50 cm de hauteur. Et en largeur, c'est à l'infini, c'est comme tu veux, quoi. Enfin, pas à l'infini, mais en tout cas... J'étais pas très limitée sur ce point. Et du coup, j'étais allée voir l'encadreur et je lui avais dit quel est le plus large que vous pouvez faire. Il m'avait dit 1m50. Et donc, ça avait été les dimensions choisies, 1m50 par 50, parce qu'il voyait à peu près les proportions, pour faire cette pièce. Et assez rapidement, il m'est apparu que ça devait pas être une pièce unique, mais donc une pièce en deux. Donc, il y a deux chapitres. Il y a Marianne Galante, qui représente la fête à Sherwood. Et il y a la deuxième pièce, qui est Massacre à Sherwood, qui représente un massacre, puisqu'en fait, deux personnes sont arrivées et ont tué à peu près tout le monde. Et donc l'idée, alors j'ai jamais pu faire vraiment ce que je voulais parce que j'ai manqué de temps, mais c'était vraiment de faire une grande, très très grande pièce qu'on puisse observer très très longtemps, dans laquelle on découvre plein de petits détails. Alors je vous en livre un, par exemple, on se rend compte que lors du massacre à Sherwood, Robin s'intéresse plus à son copain qu'à Marianne, mais bon, voilà, il y a des choses comme ça, des petits détails queer qui traînent dans la pièce. Et donc ça a été exposé, à l'époque c'était un salon de tatouage parce que j'avais ces relations-là. Et puis, donc ces deux pièces, finalement, ont été vendues. Et d'ailleurs, elles sont parties assez loin dans le Pacifique. Enfin bref, voilà, pour la petite histoire. Mais donc, je montre ça, c'est vraiment pour montrer qu'à un moment donné, j'ai eu une pratique avec une production et qui était orientée vers de l'exposition. Et puis, par contre, à l'époque, je souffrais de ne pas avoir de place pour la recherche. Du coup, j'étais très content quand j'ai eu mon poste à Toulouse. Mais assez rapidement, je suis arrivée ici, j'ai intégré un laboratoire qui est Léla Creatis, qui était très dynamique. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre. Enfin, j'avais plus le beau local, donc le local associatif. J'avais plus de raison de produire régulièrement parce que j'avais plus ce lieu pour vendre ma papeterie et mon illustration. Et assez vite, je me suis dit, bon, ok, là, on sent bien que le dessin va être complètement oublié. Ça y est, j'ai du temps pour la recherche, mais le dessin va être un peu sur le carreau. Et donc, assez vite, j'ai trouvé une stratégie. Et je me suis dit que j'allais aller à peu près tout ce que mon laboratoire organisait, de conférences, de séminaires et tout ça, et que j'allais dessiner pendant les séminaires. Et alors, ce n'était pas du tout une idée qui m'appartenait. Hein. On sait qu'aujourd'hui, même dans le champ de l'entreprise, il existe une pratique qu'on appelle la facilitation graphique, qui consiste à dessiner des conférences ou des productions orales pour les clarifier. Mais du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et puis en plus, c'était vraiment une stratégie, en fait. C'était une manière de ne pas exclure le dessin de ma vie de chercheur et finalement de faire du temps. Donc je triche, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps, je vais au conf de mon labo, donc je suis en relation avec les gens de mon laboratoire, et en même temps, je dessine, donc je ne perds pas de temps, entre guillemets. Et puis ça m'a aussi permis de renouer avec un dessin. Enfin, si on voit par exemple une vie de Robin, c'est un dessin très abstrait, très synthétique, tout en aplats colorés, qui a un degré d'iconicité hyper faible, enfin, autrement dit, qui n'est pas réaliste. Je n'ai pas de toute façon un dessin qui tend au réalisme, mais ça m'a remis aussi un peu dans l'ambiance de dessiner des visages, dessiner des gens, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Et d'ailleurs, sur cette slide, ça se voit un petit peu. Ça, c'était les premiers séminaires et c'était, j'étais un peu rouillée. Donc, je vous en montre quelques exemples. Et alors, l'idée dans ces productions-là, c'était d'associer à la fois ce qui se passe pendant les confs, tous les concepts, les idées hyper intéressantes qui se déploient. Moi, je suis dans un laboratoire où il y a des gens qui font des lettres, qui font du théâtre, qui font de la musique, qui font des langues. Donc, c'était très varié et quand même assez intéressant. Et donc, mon idée, c'était à la fois de prendre des notes pour traduire un peu ce qui s'était dit, et puis en même temps, de capter les expressions, les personnes, et puis les petits détails. Un autre détail, alors pourquoi aussi ce dessin m'a intéressé, et c'est encore une dimension où il est stratégique, c'est que, en fait, moi, j'ai un problème de santé assez bête, qui est que je suis narcoleptique. Alors, je suis narcoleptique faible, hein, c'est-à-dire je ne vais pas m'endormir là maintenant pendant que je fais cette conf. Mais bon, j'ai quand même été diagnostiquée il y a un peu plus de 10 ans. Et alors typiquement, quand je suis dans un séminaire à 14h et que des gens parlent avec une voix très monocorde, ben, je m'endors. Voilà. Ou je me distrais, ou je tombe dans des états latents, enfin, comme plein de gens aussi, vous me direz. Et du coup, ce dessin-là, ces pratiques, ces captations graphiques, comme moi je les appelle, c'est aussi des moyens pour moi de garder l'attention sur ce qui est en train d'être dit. Aujourd'hui, on parle beaucoup des crises de l'attention, de l'économie de l'attention. Il y a plein de gens qui théorisent ça. Yves Citon, beaucoup en France notamment. Typiquement, pour moi, c'était vraiment une pratique attentionnelle, c'est-à-dire un moyen d'être là, de garder l'attention sur ce qui est en train de se dire. Même si, bien sûr, il y a quand même des moments où je me distrais et je n'arrive pas à tout capter. Alors, ce qui est super, c'est que dans mon laboratoire, il y avait des événements très particuliers qui se prêtaient très bien à ces captations graphiques. C'était les séminaires méta. Alors, pour aller très vite, dans toutes les universités de France, vous avez des laboratoires de recherche. Et parmi les activités des laboratoires, il y a l'idée de restitution et de partage scientifique. Et ça, en général, c'est ce qui est fait dans un séminaire. Donc la plupart des laboratoires ont un séminaire par mois, deux séminaires par mois pour diffuser les connaissances. La particularité d'ELELA, comme je l'ai dit, c'est que c'est hyper transdisciplinaire, il y a plein de gens différents. Et donc, au lieu d'avoir un séminaire par discipline, ce qui a été décidé ces cinq dernières années, c'est qu'il y aurait une grande journée. Ça s'appelle META. C'est vraiment un grand séminaire de 9h à 18h où plein de chercheurs se rassemblent et imaginent un moment de recherche ensemble. Et ça a été génial pour moi parce qu'au lieu de passer 2 heures à dessiner, bah, d'un seul coup, je me retrouvais à devoir passer 8 heures d'affilée à dessiner, bon, avec la pause déjeuner, bien sûr. Mais ce qui était au début un défi graphique, un défi de garder le dessin dans ma pratique, eh ben, c'est devenu un défi physique, en fait, vraiment de tenir comment on fait pour dessiner 8 heures d'affilée. Bon, spoiler, on a très mal au poignet à la fin, même quand on fait plein d'étirements et tout ça. Mais moi, c'est une dimension que j'aime bien. J'aime bien, avant de plus pouvoir, j'aimais bien courir, par exemple. Donc j'aime bien être un peu essoufflée, j'aime bien les gros efforts. Et du coup, dessiner dans les séminaires méta, ça a carrément rempli cette fonction. Et là, vous en avez quelques exemples. Et je trouve que par rapport aux images précédentes, on commence un peu à voir une écriture qui se dessine entre représenter les gens qui parlent, représenter ce qu'ils disent, représenter des tons, des intensités de parole, des idées importantes, des détails, etc. Et ce qui est super, c'est que le laboratoire, quand même, est plein de gens qui ont une pratique artistique. Il y a un gros accent qui est mis sur la recherche-création, donc des gens qui écrivent des articles, mais qui créent aussi des pièces de toutes sortes. Et donc ça donnait des défis de dessin absolument géniaux. Donc par exemple, dans cet épisode-là de Méta, qui était Méta 2, je crois, la chercheuse Marion Guyez, qui est une chercheuse en cirque, a fait une lecture-performance, elle a fini par faire le poirier sur une table de conférence, ce qu'on voit quand même pas souvent dans la recherche. Et donc ça donnait des choses assez sympas et des petits défis de dessin. Assez rapidement, les gens ont commencé à voir ce que je faisais et donc se sont rendus compte que quand je venais en séminaire ou en conférence, je faisais des dessins. Et du coup, pour Méta 3, il y a une autre dimension qui est arrivée. C'était celle de peut-être filmer les dessins en train de se faire et de les diffuser pendant le déroulement du séminaire. Bon, vous le voyez là, le dispositif technique est assez primitif. Hein. On avait utilisé un appareil photo. L'angle n'était pas toujours très bon, il y a des problèmes d'ombre portée, il manque des éclairages, mais on l'a fait avec les moyens de l'université, de manière un peu précipitée. Et néanmoins, il y avait ce truc intéressant de dire, en même temps qu'une conférence est en train de se passer, on peut aussi la suivre en regardant le dessin en train de se faire. Et puis ça donne aussi une forme de transcription, parce que je vais en parler après, mais il y a un problème et un enjeu dans la recherche, c'est vraiment la restitution des connaissances. Quoi. C'est, en France, vous avez plein de chercheurs qui cherchent et travaillent sur plein de sujets intéressants, qui publient des articles de recherche, mais qui sont souvent ardus. C'est des connaissances et même des questionnements auxquels le grand public n'a pas toujours accès. Donc les captations graphiques, c'était aussi intéressant comme finalement, ça devient une sorte de bande dessinée ou quelque chose de plus accessible qu'un article de recherche. Donc d'un seul coup, pourquoi pas, ça peut faire partie d'une médiation et ça peut rendre la recherche plus facilement lisible. Donc voilà d'autres exemples. J'en passe quelques-uns. Ce qui est intéressant aussi avec la captation graphique, c'est que ça ne se passe pas toujours... je suis désolée, la qualité n'est pas super sur la projection. Par contre, j'ai amené tous les carnets, vous pourrez les feuilleter après, voir les originaux. Ce que je trouve intéressant aussi avec la captation, c'est que ça suit des états physiques personnels. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on n'arrive plus à dessiner, on n'arrive plus à tout prendre en note, on n'arrive plus à être dans le moment où d'un seul coup on se met à mal dessiner. Mais il y a cette espèce d'enjeu de continuer de dessiner malgré tout. Voilà, moi c'est ça aussi qui m'intéresse. Et un autre point intéressant, c'est que ça ne se passe pas toujours bien. Autant dans mon labo, ça a toujours été tranquille et les gens l'ont très bien accepté, voire même adoré et me sollicitaient à la fin des séminaires pour voir même leur trombine dans le carnet. Autant il y a eu des moments plus embarrassants. Donc, là, par exemple, je m'étais rendue au séminaire de Pierre-Damien Huyghe à Paris avant qu'il parte en retraite. Donc Pierre-Damien Huyghe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des chercheurs les plus importants, philosophe, qui a longtemps officié à Paris 1 et qui... était quand même quelqu'un et est toujours quelqu'un d'important pour la discipline du design et la pensée du design en France. C'est aussi quelqu'un d'assez discret et je pense qu'il n'a pas trop aimé que je le dessine. Du coup, voilà, ça a aussi un impact sur l'image, sur ce qui est produit. Je me suis retrouvée du coup à quasiment jamais le dessiner. Il a une tête vide les trois quarts du temps parce que je voyais bien qu'il était extrêmement embarrassé quand je le regardais. Un autre point qui est intéressant, alors aussi maintenant on commence à me solliciter en dehors du domaine universitaire pour des conférences d'autres formats. Là par exemple c'était l'événement Détournement de fabrique qui était au hall de la cartoucherie donc en avril dernier. Et c'était un événement dans lequel un certain nombre d'invités étaient présents pour parler de la revalorisation du patrimoine industriel en France, et notamment des anciennes halles, des anciennes usines, etc. Et les personnes invitées étaient on ne peut plus différentes, puisqu'il y avait, je ne donnerai pas les noms, vous pouvez les retrouver facilement, mais il y avait des dirigeants, dirigeantes de squats autogérés artistiques face à des futurs repreneurs de la cartoucherie. Donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer le clash. Et donc, de ce coup, là, les gens s'engueulent. Et alors là, moi, c'est ce que je préfère, parce que quand les gens s'engueulent, ça devient vraiment drôle à dessiner. Et on est moins sur des questions de sujets et de concepts qui étaient hyper centrales juste avant dans la recherche, mais où c'est un petit peu, voilà, chut-chut Charlotte, on est gentil, on n'a pas un mot plus haut que l'autre. Tandis que dans d'autres contextes, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Et du coup, ça rend compte aussi des dissensions, des désaccords, des choses qui se disent, même si pour moi, c'est super dur, parce qu'en général, quand on s'engueule, ça va très vite. Et moi, là, c'est que, en général, c'est là que ça me met aussi en difficulté. Donc, je parlais tout à l'heure de la facilitation graphique. Moi, c'est un terme que j'emploie pas. Je pense que, je sais pas si ça se voit aussi sur les images que je suis en train de présenter. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'idée d'embaucher des illustrateurs dans des grands groupes commerciaux ou industriels pour faire de la prise de notes dans des réunions, moi, bon, peut-être que je le ferai si j'ai besoin d'argent, mais. Il se trouve que j'en ai pas besoin pour vivre puisque je suis payée par la fac, donc ça me donne aussi une liberté à cet endroit-là et ça me permet de pas faire de facilitation. Moi, c'est un terme que j'aime pas du tout. J'aime pas l'idée que mon dessin vienne faciliter ou clarifier quoi que ce soit. J'aime plutôt l'idée que ça participe de transcrire certaines choses, mais que ça peut embrouiller d'autres. Voilà. Donc l'idée de faciliter les choses ou de les rendre plus disponibles à la commercialisation, à l'innovation et autres mots en sion qui m'agacent, voilà, c'est pas trop mon truc. D'où j'emploie le terme de captation graphique qui est pas très beau, mais voilà, ça explique aussi pourquoi j'emploie ce mot-là. Juste deux points. Alors ensuite, peut-être je vais passer cette slide-là. Est-ce que c'est après ? Ouais, pour parler de deux événements où j'ai fait des captations graphiques. Et c'est là vraiment où cette pratique-là, elle a pris toute sa mesure. La première fois, c'était en 2016, à Cerisy. Alors, Cerisy, très rapidement, c'est un grand château en Normandie qui est très connu dans le milieu de la recherche. C'est un peu le club maître des chercheurs. Enfin, je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est un grand château où officie une dame qui s'appelle Edith Urgon, qui s'occupe du lieu et qui accueille tout un tas de conférences universitaires une solide partie de l'année. Et c'est des conférences grand format, c'est-à-dire que c'est en général pas moins d'une semaine. Donc quand vous y allez, vous avez votre chambre. En général, votre chambre, elle a sa petite mystique. On vous dit, ici a dormi Heidegger, ici a dormi Bruno Latour, etc. Enfin, il y a toute une mystique et une mythologie autour du lieu. Il y a des rituels extrêmement contraignants. Enfin, vous prenez les repas avec tous les autres chercheurs. Il y a une petite cloche qui sonne pour aller prendre le repas. Enfin, voilà, il y a quelque chose de... C'est un mix entre Club Med, Poudlard et je ne sais pas quoi pour les chercheurs. Voilà. Et c'était un événement organisé notamment par Yves Citon, encore lui, sur les écologies de l'attention. C'était un événement dans lequel je parlais par ailleurs. Mais du coup, je me suis dit, allons-y, je vais dessiner. Et j'ai vraiment dessiné en continu pendant 7 jours. Et là aussi, donc, il y avait une performance physique. Et ce qui était intéressant, c'est que très souvent, les conférences universitaires donnent lieu à des publications d'actes, c'est-à-dire des livres qui retranscrivent les conférences. Et là, les dessins étaient présents dans les actes. Donc ça, c'était plutôt chouette. Ça montrait aussi que le dessin pouvait être un complément intéressant à l'article, pouvait donner un autre point de vue. Et ça a été publié dans cet ouvrage-là. Et un autre moment qui a été important et qui ressemble un petit peu, c'est les rencontres de l'URE, d'où cette image-là. Donc pendant les rencontres de l'URE, même chose, je présentais une conférence, mais j'ai aussi dessiné en continu pendant toute la semaine. Donc les rencontres de Lure ne se déroulent pas à Lure en Bourgogne, mais à Lurs dans les Hautes-Provence. Il y a une petite histoire derrière tout ça, je vous laisserai aller voir, mais c'est en gros une rencontre de graphistes et typographes, d'ailleurs même plutôt typographes à l'origine. Et bah, j'y avais été conviée pour parler, mais j'ai aussi pris l'occasion pour dessiner. Et à l'issue de cette conférence, bah, on m'a proposé de dessiner la lettre de Lure, en tout cas le dessin qui se trouve derrière le poster qui compose cette lettre. Alors là, même chose, on ne voit pas très bien sur les slides. Mais j'ai décidé aussi de reprendre tout ce que j'avais fait pendant la semaine en captation graphique et de le synthétiser en un seul dessin qui, du coup, joue à la fois comme une espèce de grand paysage, mais dans lequel on retrouve la temporalité de la semaine, des anecdotes, des visages, des gens. Et du coup, ça devient un peu un petit jeu de piste façon où est Charlie pour se retrouver, se souvenir de ce qu'on a dit, qui avait dit quoi, et ainsi de suite. Mais je dois avoir aussi, juste après, des images de ces conférences-là. Encore un mot sur les captations graphiques. Aussi, on me propose maintenant des choses qui n'ont pas le format de conférence. Donc ça, c'est encore un autre défi. En juin 2019, j'ai participé au festival Rubiche Show, qui était un festival qui s'était donné comme thème beaucoup les questions de genre. Et entre autres événements super intéressants, il y a eu beaucoup de choses à Mix Art Miris. Il y a eu une après-midi qui s'appelait Transforme, et au cours de laquelle il s'agissait de poser la question de l'éducation non genrée. C'était à l'école de la Prairie, si je me rappelle bien. Et donc, une drag queen avait lu des contes non genrés, ou en tout cas non normatifs dans le genre. Et c'était suivi d'ateliers entre enseignants, parents, enfants, pour discuter de l'éducation et du genre, et de comment on adopte ou on essaye d'aller vers autre chose que les traditionnelles catégories masculin-féminin, surtout dans le cadre scolaire. Et donc ça donne des dessins qui forcément sont aussi moins structurés que ce que vous avez vu avant, puisque là aussi ça va très vite. En fait, moins le propos est théorique, plus les gens parlent vite, donc ça devient très difficile à saisir. Et puis il y avait plusieurs ateliers en même temps, donc il a fallu que je navigue d'une table à l'autre. Et bah, c'était un moment d'intense frustration, puisque bien sûr je ne peux pas tout capter, tout prendre en note, mais du coup je me retrouve à, encore une fois, faire des espèces de paysages qui, au fond, tente de restituer le mieux que possible ce qui s'est produit. Sachant que voilà, moi je le dis presque sans complexe, je ne suis pas un grand dessinateur de portraits, donc en général les gens ne se ressemblent pas, ou il faut que je m'y reprenne à 4 ou 5 fois. Donc ça aussi, c'est aussi un défi supplémentaire. Je dessine tout directement, je ne fais jamais d'esquisses, je n'ai pas le temps de toute façon. Donc il faut que ce soit instantané, croqué, sinon ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc là, vous avez quelques-unes des images de restitution. On voit les différentes observations qui ont pu être faites dans les différents workshops. Et donc voilà un petit peu donc mes deux grands moments de dessin, mes deux semaines. Vous en avez quelques aperçus. Et là aussi, ce qui était chouette, c'était de changer aussi les règles de dessin habituelles. Passer plus de temps sur un portrait ou dans certains cas. Alors ça, c'était assez marrant parce que donc Cerisy, je reviens un peu là-dessus, mon club maître de chercheurs, c'est aussi un moment de vie. Et donc, il y a des moments de loisirs et de partage social. Et notamment le jeudi soir, il y a eu un jeu du loup-garou. Sauf que plutôt que de faire le traditionnel jeu du loup-garou avec le loup-garou et les villageois, le loup-garou était remplacé par les fantômes de la French Theory. Donc c'était Derrida, Deleuze, Foucault et compagnie. Et les villageois étaient remplacés par les séminaristes, donc les personnes du colloque. Et donc ça, ça a été une des captations graphiques les plus drôles que j'ai pu faire, puisque pour le coup, on n'était plus du tout dans les concepts, les idées, le travail de grands chercheurs, mais plutôt des gens qui ont bu et qui enfin se détendent au bout de 5 jours de colloque. Et là, il y avait des choses plutôt marrantes. Voilà, là, vous avez aussi un petit aperçu. Ce gif est pas mal, c'est l'auteur Nicolas Taffin, qui vient souvent aux rencontres de Lure, qui l'a fait. Ça permet de donner aussi une idée du carnet, parce que l'objet carnet est très important. Et quand je passe une semaine dans un lieu, comme ici à Lure, il y a une somme qui sort de ça, quoi. Et du coup, ce gif est peut-être une petite piste sur la manière dont ces dessins-là peuvent être valorisés ou représentés ou ensuite mis en espace. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je le remercie de l'avoir fait parce qu'il y a un point dont je n'ai pas parlé qui est important. C'est que je dessine beaucoup. Si je dessine une semaine, il va y avoir des trentaines, voire cinquantaines de planches. Il faut les scanner, il faut prendre le temps de les archiver. Et moi, je ne suis pas très bonne élève là-dessus, je ne le fais pas toujours. Donc voilà, se pose aussi la question de comment valoriser ce travail. C'est une question que je n'ai pas toujours intégralement résolue. Voilà. Je vous présente juste un livre parce que je suis chercheur et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une référence théorique dans cette conf. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, je regarde vite fait. Bon, ça va, il reste un peu. Je suis en train de finir ce bouquin là de Olai Mould, Against Creativity, donc c'est contre la créativité. Et c'est un bouquin qui est pas mal pour comprendre justement pourquoi la facilitation graphique, ce n'est pas une super idée. C'est un bouquin qui défend notamment l'idée qu'aujourd'hui, on met la créativité en avant dans des lieux où elle n'était pas mise en avant auparavant, notamment dans le secteur de l'entreprise et de l'emploi, en disant notamment aux gens, si vous n'avez pas d'emploi, c'est que vous n'êtes pas assez créatif, ou en disant, si l'économie va mal, c'est que l'entreprise n'est pas assez créative, donc il faut avoir absolument de nouvelles idées, ou il faut se créer son emploi. Donc, ce que fait Mould, c'est qu'il déconstruit toute cette éthique qui nous vient en fait, de Cupertino, hein, c'est vraiment l'éthique californienne des GAFA et compagnie. Et je trouve ça pas mal, moi ça m'aide aussi à repenser ces histoires de captation graphique, je me dis, mais est-ce que le dessin, il est nécessairement dans l'idée aussi de produire quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'il n'est pas là aussi pour venir créer des brèches, pour venir capter ce que normalement on ne garde pas, ce qui est considéré comme sans valeur. En tout cas, moi, dans ma pratique de captation graphique, j'aime bien capter les petites piques, les moments où la technique ne marche pas, où les micros sifflent. Bon, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Il y avait une souris, une année, qui avait traversé la salle pendant une conf à la fac. Donc voilà, ce genre de choses, ce genre de détails qui sont en fait pas récupérables, qui ne servent pas le propos, qui ne servent pas la théorie a priori, mais qui, en fait, à mon avis, sont fondamentaux. Voilà, donc c'était une petite référence théorique en passant. Pour finir ou aller vers une conclusion, j'ai aussi une pratique du dessin qui est plus conceptuelle, enfin en tout cas qui m'aide moi à penser. Donc je travaille pas mal sur les questions de la queer théorie. Alors j'ai pas le temps de définir vraiment ce qu'est la queer théorie. En deux mots, c'est une théorie qui s'intéresse à la fois aux personnes dites queer, donc LGBTQIA, soit lesbienne, gay, trans, bi, intersexe, etc. Donc ça s'intéresse à des publics et à des minorités. Mais depuis les années 90, la théorie queer, c'est aussi une théorie qui hérite, on va dire, d'une ambition de déconstruction des normes. C'est vraiment la synthèse la plus condensée que je peux faire de cette chose-là. Et donc moi, je travaille beaucoup sur ces questions de théorie queer et comment on peut déconstruire certains concepts et normes qui sont considérés comme absolument évidents. Et donc le dessin permet aussi de faire ça. Et donc là, ce que vous voyez, c'est des choses que je montre pas trop d'habitude. C'est mes dessins de préparation pour les cours. Et donc, j'essaye de lier plusieurs choses. C'est-à-dire à la fois, là, on voit sur le dessin comment on déconstruit les normes masculines, féminines, comment on associe ça à un questionnement sur la production des objets, des espaces de design, quel est le lien avec les pratiques de consommation et donc avec le capitalisme. Et j'essaye par le dessin de trouver des liens, ou en tout cas de voir comment tout ça communique. En voici un autre, donc là c'était plus sur l'identité, et ça a été un gros boulot que je continue aussi, parce que les questions trans, donc tout ce qui est lié aux personnes transgenres, qui me concernent d'ailleurs de premier chef, c'est pas des choses qui sont encore bien connues en France. On entend encore traîner le mot transsexuel qui pourtant est obsolète depuis des années et qui n'est plus du tout employé aux États-Unis. La question de l'identité de genre non binaire, c'est très mal connu et c'est très mal compris, sauf pour s'en moquer. Donc moi, j'essaye pas mal de faire des dessins qui graphiquement pourraient permettre de comprendre ces questions-là. Je passe sur celui-là. Une slide s'est perdue en cours, c'est dommage parce qu'elle était pas mal. Bon, on la verra peut-être tout à l'heure, mais bon, au moins vous avez celui-là, où on voit un petit peu comment j'essaye de montrer visuellement, de produire des supports graphiques, pédagogiques qui permettraient de comprendre c'est quoi le sexe, c'est quoi le genre, pourquoi c'est pas la même chose, pourquoi les deux sont construits, etc. etc. Et puis ça va concerner après des questions plus précises. À l'UR, j'avais communiqué sur les fluides corporels parce que le mot fluide constituait le thème de la conférence. Donc pareil, j'avais essayé d'investiguer graphiquement cette question-là. Par exemple, un lien qui m'intéresse beaucoup, moi, qui est le lien entre le corps et l'habitat et comment, en fait, notre corps et nos habitats sont reliés par les fluides corporels. Là aussi, sur les sexbots, j'en parlais tout à l'heure, la question de qu'est-ce qu'un sexbot, qui est toujours une question hyper compliquée à expliquer dès qu'on fait une conférence avec Anthony Mazur sur le sujet. On avait essayé de montrer toutes les technologies, parce que les sexbots n'existent pas vraiment encore en tant que tels, mais on essayait de montrer de quoi les sexbots sont la somme. Donc c'est à la fois la somme, en gros, de Alexa plus une poupée gonflable, plus une conscience qui serait du côté de l'intelligence artificielle. Voilà, tout ça, c'est pas toujours simple à expliquer, donc on avait créé ces supports-là graphiques pour essayer de le clarifier. Et là, encore un autre sur la question des cuisines, donc c'est toujours le même principe de cartographie, comment on met à plat des idées et on essaye de les structurer pour aller, in fine, aussi vers le texte. Et donc voilà, oui, c'est ce dessin-là que je cherchais tout à l'heure. À Lure, j'avais donc créé ces dessins-là pour essayer de faire comprendre comment on peut sélectionner des publics par identité de genre et de sexe, et que hommes et femmes, ça n'épuise pas du tout le nombre d'identités disponibles pour une personne, bien loin de là. Surtout que moi, j'avais présenté un travail sur l'analyse des applications de gestion des règles qu'on télécharge sur son téléphone pour gérer son cycle. Et donc, j'essayais de montrer que ces applications, elles ne concernaient pas juste des femmes, a priori, mais elles concernaient en fait des femmes cisgenres, mais aussi des hommes transgenres, des personnes non-binaires, des personnes intersexes, etc. Et donc, je m'étais servi de ce petit schéma pour essayer de montrer quel public concernait ces applications, a priori. Je le montre rapidement, c'est pour vous montrer un peu dans toutes les directions que j'explore sur la question de ces cartographies-là. Je m'intéresse beaucoup aussi au cinéma, je fais donc de la recherche sur le sujet. Et là, je m'étais intéressée à essayer de rendre compte graphiquement d'un film. Donc on a le film décomposé grâce à ces objets. Et c'était aussi une tentative de le faire avec d'autres moyens graphiques. Bon, moi j'aime quand même plutôt dessiner. Là, j'avais essayé de faire un truc sur Illustrator qui m'avait un peu moins satisfait. Mais qui permettait aussi potentiellement, ça c'est un projet qui est un peu en jachère pour le moment, je ne suis pas encore revenue dessus, mais l'idée c'était de se faire une base de données de films par leurs objets, donc d'avoir un ensemble de fiches comme ça qui permettrait de voir la géographie du film, mais juste pas en prenant les relations entre personnages, plutôt les relations entre les objets. Et j'en arrive à toute l'intention derrière ces dessins-là, qui est quand même une dimension pédagogique. C'est-à-dire que ces dessins, ils m'aident à chercher, ils m'aident à connecter des concepts, mais ça permet aussi d'annoncer des directions, ou en tout cas, ils aident à clarifier peut-être un panorama de recherche. Et le cours donc, Queer Design que je fais sur théorie du design et théorie queer à la fac, je ne donne pas de plan, parce qu'en général, de toute façon, je suis incapable de tenir un temps, je fais plein de digressions, et ça n'aurait pas de sens. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de mettre un plan linéaire, alors qu'on parle d'une théorie queer qui cherche à rompre les normes. Donc c'est ça le plan que je donne aux étudiants, en fait. J'essaie plutôt de leur montrer des plateaux ou des espèces de couches thématiques que je vais venir explorer. Donc là, elles sont faites graphiquement avec un mélange de dessins et de tapuscrits. Mais il y a aussi un équivalent sur le web, et on retrouve les éléments dessinés, animés, et des choses qui étaient fixes et représentées comme quatre couches, mais un petit peu pleine de texte et pas toujours très clair, se retrouve d'un coup comme une structure avec quatre plateaux qu'on peut explorer, et le tout est interactif. Voilà. Mais tout ça, c'est des références aussi que je pourrais donner ultérieurement, mais c'est disponible d'ailleurs aussi directement sur le site que j'ai en ligne. Je regarde rapidement le temps. Ouais. Du coup, en gros, tout ça, tout ce que je viens de vous montrer, c'est toujours la question de comment on connecte des concepts et du dessin, pour aller très vite. Et c'est la direction aujourd'hui vers laquelle je me dirige, qui est de plus en plus de rompre le mur entre ma pratique de recherche et une pratique de designer, ou plutôt d'illustrateur, là, dans ce cas. Là, vous avez un article que j'ai publié pour Multiprise. Je crois que ça fait... la revue Multiprise, c'était il y a un an. Et on m'avait donné un peu une carte blanche. Et je me suis dit, pourquoi pas, finalement, produire un texte un peu hybride, qui utilise des concepts que je traite au quotidien, mais qui est aussi dans de l'écriture créative, et en même temps faire que cette écriture-là, elle rencontre le dessin. Donc, j'ai pas encore trouvé exactement ce que je voulais faire. Mais l'idée, c'était vraiment de proposer une lecture qui croise à la fois le texte conventionnel de recherche et le dessin tel que je le pratique à la ligne claire, toujours avec les mêmes outils. Et là, vous avez les doubles pages. Ouais. Malheureusement, ça sort très mal sur la projection, mais j'ai amené la revue. Vous pourrez la consulter. C'est, à ma connaissance, je crois, le dernier numéro de Multiprise. Peut-être qu'il y en a eu un autre entre-temps, mais je ne sais pas. Un autre moment aussi où le dessin peut rencontrer la recherche, donc ça aussi je vais le montrer parce que je trouve que ça peut être intéressant. Je parlais de ciné-design au début de cette conférence, donc c'est la rencontre entre cinéma et design qui sont un peu mes deux grandes disciplines. Il y a 3 ans, donc avec Irène Duniac, on avait organisé à la fac une journée d'études, donc là le format typique de la recherche universitaire avec des conférenciers qui viennent, qui parlent 20 minutes, voilà. Et on s'est dit, on va faire des actes. Mais le problème, c'est que dans la recherche, quand vous faites des actes, vous n'avez pas de fric. Les labos en donnent un petit peu, mais pour vous donner une idée, on peut espérer avoir 800, 1000 euros maximum pour une publication. Donc quand vous arrivez à voir un éditeur avec 1000 balles, bon, bah, vous comprenez bien que vous n'êtes pas sa priorité numéro 1. Et du coup, ça fait, entre autres raisons, que les publications prennent un retard colossal. Donc même avec des gens qui travaillent très bien, il n'est pas rare de devoir attendre 4, 5, 6 ans avant de voir paraître un article. Et ça, c'est hyper frustrant, surtout quand on est des chercheurs qui sont vraiment dans le présent, dans le fait de publier des choses et d'aller vite. Moi, là, il y a des textes qui sont parus. Enfin, j'ai par exemple un texte qui est en souffrance, et je ne jette pas du tout la pierre aux collègues, mais il est en souffrance depuis 2014. Il va sortir, ça ne correspond plus à ce que je pense, quoi. Donc c'est quand même embêtant. Et du coup, on s'est dit, on veut que ce livre paraisse vite, donc on ne va pas demander le soutien de notre labo, on va le faire avec notre pognon. Il se trouve que j'en avais un petit peu à ce moment-là, donc j'ai pu payer la publication. Et il y avait un second point problématique qui était les images. Et quand on fait une publication sur cinéma et design, très souvent, surtout les publications de cinéma, on montre des extraits de films. Or, tout ça est soumis, bien sûr, aux droits d'auteur. Et c'est quand même compliqué. Enfin, nous, on n'a pas du tout les moyens professionnels de contacter la Fox, la Paramount et tout ça pour leur demander les autorisations. Puis on n'a surtout pas l'argent pour les payer en plus. Donc on s'est dit, on va faire des illustrations. Ça va faire qu'on ne sera pas soumis aux droits d'auteur, on sera juste dans la reproduction d'images existantes. On ne pourra pas nous dire qu'on a volé des images. Et en même temps, ça nous permettra de ne pas abandonner l'idée d'avoir une publication avec des images. Parce que quand même, une publication sur cinéma et design sans visuel, c'est quand même très triste. Donc là, vous avez les images du livre, qui est encore disponible d'ailleurs, donc il a été publié sur Blurb, hein, donc on était vraiment dans l'autonomie complète. Il n'y a pas d'autres éditeurs que nous. Et puis cette entreprise Blurb de laquelle on dépend, bon, ça pose plein de problèmes, mais ça a permis la vitesse de parution, donc c'est déjà ça. Et puis à l'intérieur du bouquin, vous avez un certain nombre d'images, donc les portraits des contributeurs, contributrices. Et puis à l'intérieur, une somme d'images, alors qui sont des formats carrés, donc c'est pas du tout, ça ne reprend pas le format des images de cinéma. Donc on ne peut pas dire que ce sont des photogrammes au sens classique du terme, c'est-à-dire ce ne sont pas des visuels extraits du film, mais ces images clés, elles permettent au moins de comprendre un petit peu de quoi parle le texte. Et puis, bah, ça ne coûte pas cher, puisque c'est nous qui faisons les images. Donc là, le dessin, il a aussi un rôle intéressant pour garder de l'autonomie. Et encore une fois, ce n'est pas forcément un dessin ultra descriptif, ultra réaliste, c'est plus des images pour faire de la remise à l'esprit, comme on le voit ici, avec cet article de Brice Genre sur la table dans les films de Tarantino. On n'a pas voulu reproduire les images des films, mais plutôt évoquer les films, faire appel à une mémoire collective de ces films-là. Et l'ouvrage se terminait d'ailleurs par un chapitre qui s'appelait « La publication buissonnière », c'est-à-dire comment on publie sans personne et sans pognon, et en plus en diffusant librement les textes sur le web, de manière aussi à ce que ces ouvrages-là soient accessibles. Parce qu'une chose que je n'ai pas dite, qui est encore un problème supplémentaire, c'est que souvent, ces ouvrages, bien que n'ayant pas une très belle maquette et paraissant très tard, ils sont très chers. Et comme leur public premier, c'est les étudiants, c'est quand même hyper problématique que les gens n'y aient pas accès. D'où l'intérêt aussi de publier soi-même et de définir le prix, et aussi de définir la libre diffusion des textes sur le web en même temps que sur papier. Je vais terminer avec Dataro, je pense qu'il me reste 2 petites minutes. C'est justement mon travail en cours. Alors, c'est un travail que je fais avec une dramaturge et doctorante en études théâtrales qui s'appelle Camille Coury. Et il y a un an, on a été invité au MozFest, qui est le festival organisé par Mozilla, l'entreprise qui fait entre autres le navigateur Firefox. Et j'avais été approchée par Stéphanie Houillon, qui travaille chez Mozilla, et qui m'a dit qu'elle était en charge du coin, du queer corner, ou de la zone queer dans le festival, et qui m'a aussi là, donné un peu une carte blanche, parce qu'elle savait que je travaillais sur les espaces, le queer, le design, etc. Et du coup est né ce projet d'Ataro, qui en fait prend pour base de réflexion la notion de quantified self. Alors ce qu'on appelle le quantified self, c'est dans une traduction littérale le soi quantifié. C'était le sujet, le sujet du festival Mozilla, c'était la donnée l'année dernière. Et donc la question du soi quantifié est en plein dans cette question, puisque ça correspond en fait à toutes les traductions en données de nos corps et de nos existences. C'est-à-dire quand on court et qu'on a un compteur qui compte les kilomètres sur le téléphone, quand on compte les calories, quand on compte les durées de la nuit, etc. On appelle ça du soi quantifié, donc la traduction de nos corps en données numériques sur smartphone ou autre. Et donc l'idée de Dataro, c'était de générer un petit coin de repos, de sieste, de méditation, d'abandon, où on questionne les rythmes et la qualité de la vie contemporaine. Alors là, vous avez quelques aperçus du projet prototype, avec donc un dôme qui est un peu une sorte de cabane à sieste dans laquelle on vient se réfugier, même si là, dans cette première production, le public n'avait pas accès au dôme. Là, c'est le setup qu'on avait proposé pour le festival Mozilla, donc... À l'époque, on avait encore l'accès du dôme au public n'était pas encore intégralement pensé. Cette histoire de Dataro, c'est à la fois un lieu où se reposer. Bah, d'ailleurs, comme vous, là, vous êtes sur des petits coussins avec des casques, ça ressemble un petit peu au dispositif qu'on met en place. Et en même temps qu'il y a le dôme et des gens posés pour se reposer et faire la sieste, il y a deux personnes, donc Camille et moi, qui lisent un ensemble de textes qui racontent le voyage de l'innocent. Et le voyage de l'innocent, c'est en fait le voyage qui est raconté par les cartes traditionnelles du tarot de Marseille. Et en traversant chacune des cartes des arcanes majeures du tarot, on traverse de manière thématique des problématiques contemporaines liées à nos existences. Donc c'est le burn-out, le polyamour, la transidentité, l'épuisement au travail, le dégoût, mais aussi la reprise de confiance et peut-être l'espoir. Voilà. Donc, toutes ces thématiques-là sont abordées. Et elles sont abordées au travers des cartes de tarot que j'ai redessinées pour l'occasion. Et c'est là le lien avec ma pratique graphique. C'est que du coup, il était question de queeriser, ou en tout cas de... j'aime pas trop le mot dégenrer, mais en tout cas de questionner l'aspect genré du tarot. Il y a des figures qui sont extrêmement genrées dans ce tarot de Marseille traditionnel. Il y a des reines, des rois, etc. Et l'idée, c'était de... à la fois en questionner le genre dans l'appellation, de questionner aussi ce qui est représenté sur la carte et de questionner aussi les images traditionnelles associées à ces arcanes mineures ou majeures. Voilà. Et je vous montre les cartes que j'ai par ailleurs amenées, que vous pourrez consulter. Donc ces cartes, elles servent à la fois à la représentation de Dataro. Pendant Dataro, il y a des interludes de tirage où je lis les cartes aux gens de manière assez brève. Mais il y a la possibilité, parce que le spectacle Dataro boucle à l'infini, en fait, hein, comme le cycle des arcanes majeures. Et il y a aussi la possibilité de prévoir des temps où en fait, je peux lire le tarot aux gens, puisque c'est une pratique aussi que j'ai depuis un peu plus d'un an maintenant. Voilà. Et là, vous avez la dernière session de Dataro lors de la nuit ouverte à Brive-la-Gaillarde, qui est le point le plus abouti de cette représentation, où vraiment le public, en plus c'était vraiment une nuit blanche de théâtre, donc entre 3 et 5 heures du matin, le public est venu s'allonger, dormir et avait pour le coup vraiment l'attention et la disponibilité idéale pour traverser le voyage de l'innocent avec nous. Et je sens que je déborde, donc je vais juste projeter très rapidement la suite et les projets. Ciné Design, on est en train de travailler sur une encyclopédie des objets impossibles. Il y a un appel à communication qui est en ligne. Si vous avez envie de participer à cette grande encyclopédie d'objets bizarres, ben, n'hésitez pas, il y aura plein de choses. On va parler des parkings au cinéma, mais aussi des objets dans Rick et Morty, dans les Simpsons ou autres. Donc, on accepte non seulement les communications universitaires, mais aussi les fictions et les choses un peu plus hors format. Une session 4 de Dataro. Et puis, ben, je suis toujours en train de travailler sur mon bouquin, sur les questions de ces cuisines révolutionnaires. Et J'espère bien que mon éditeur me laissera y mettre des illustrations et toutes les illustrations de recherche. Voilà. Voilà un peu la suite. Et puis, c'est peut-être pas très bien de le dire pour les gens qui sont à la radio, mais j'espère qu'il y aura un temps peut-être plus d'échange après où on pourra voir les carnets ensemble, enfin, feuilleter tout ce qui est présent. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et merci.
Merci beaucoup. On peut éventuellement prendre une ou deux questions si vous en avez. Sinon, tout va se passer autour des carnets, je pense. Hein. Bon, je comprends qu'on ait envie de regarder un petit peu maintenant.